grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse en direct et en podcast. Et ce matin, une émission spéciale en cette période troublée, un peu de sérénité en compagnie de notre camarade, le psychiatre Christophe André. Pour la première fois sur France Inter, ceux qui le veulent pourront méditer. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
C'est une première pour vous, en direct à la radio, de méditer ?
Mais oui, je suis très ému, mais rassuré de faire ça en votre compagnie.
Et je signale que cette émission est diffusée en direct et en vidéo sur la page Facebook de France Inter. Nous attendons toutes vos questions sur la méditation de pleine conscience au 01 45 24 7000. Qu'est-ce que la méditation de pleine conscience ? Quelles sont les idées reçues sur cette pratique popularisée par le professeur de médecine américain John Kabat-Zinn ? Comment se pratique-t-elle ? Quels sont les bienfaits prouvés par les dernières découvertes scientifiques ? Pourquoi de plus en plus de services hospitaliers l'utilisent ? La méditation convient-elle à tout le monde ? Quelles sont ses contre-indications ? Pourquoi certains n'arrivent pas à méditer ? Bonjour Fabienne Sintès.
Regardez pas comme ça.
C'est un peu votre cas. Vous êtes notre camarade de bureau et animatrice du 18-20 du lundi au vendredi. Et vous allez essayer de méditer avec nous ce matin.
Ben absolument. Mais pourquoi moi d'abord ? Parce que je
parce
fais
que
trop de bruit dans le couloir.
Vous m'avez dit dans les couloirs que vous aviez un peu de mal avec cette pratique.
Ouais, c'est pas tout à fait mon truc.
À l'heure. Et avec nous également le professeur Corinne Isnar-Banis, chef adjoint du service néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle, prête à méditer et à poser ses questions ce matin.
Oui, bonjour Ali, je suis très scolaire, je vais suivre à la lettre, promis.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Christophe André, je rappelle que vous êtes psychiatre, l'auteur de Méditer jour après jour. Pour les néophytes, qu'est-ce que la méditation de pleine conscience et pourquoi parle-t-on de pleine conscience ? C'est la traduction française de mindfulness.
Oui, la méditation de pleine conscience, c'est la forme la plus simple de méditation. Si on veut démarrer dans ce domaine, c'est sans doute par là qu'il faut commencer. C'est une méditation laïque qui ne nécessite pas d'adhérer à des croyances bouddhistes ou autres. Et c'est une méditation qui consiste, de notre mieux, à tourner notre esprit vers l'instant présent, à se rendre présent à ce qui est là, alors que notre esprit a souvent tendance à vagabonder vers ce qui va se passer tout à l'heure ou ce qui s'est passé il y a quelques instants. Et donc cette démarche qui paraît simple comme ça, tourner son esprit vers l'instant présent, c'est pas si facile que ça pour beaucoup d'entre nous.
C'est le professeur de médecine américain John Kabat-Zinn qui a popularisé et laïcisé cette pratique très ancienne dans de nombreuses religions et traditions spirituelles.
Oui, la méditation, c'est pas un truc nouveau, ça fait 2500 ans au moins que les humains méditent, mais effectivement, ça se passait dans des cadres religieux, des démarches spirituelles. Là, ce qui est nouveau, c'est d'une part, effectivement, ce côté laïque. Ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas laïque est à rejeter, mais en tout cas, c'est important, par exemple, pour méditer à l'hôpital ou à l'école. Et deuxièmement, la validation scientifique. On a conduit beaucoup d'études depuis une trentaine d'années qui montrent que, méditer nous fait du bien sur tout un tas de plans dont on aura sans doute l'occasion de parler. Donc évidemment, ça n'a rien d'obligatoire, c'est comme l'exercice physique ou manger des fruits et des légumes, mais pour celles et ceux que ça intéresse, c'est une démarche qui est simple, qui n'est pas coûteuse, qui est écologique et qui est bénéfique à notre bien-être global.
C'est une pratique aussi simple que la marche à pied ? Est-ce que c'est simpliste de dire que méditer, c'est ne rien faire ?
Ouais, c'est ne rien faire, mais très bien. Ne rien faire, mais à fond. C'est-à-dire la capacité à ne rien faire, on l'a un peu perdue aujourd'hui, avec les écrans, avec cette société passionnante dans laquelle on a des informations, des distractions, des tout un tas de choses qui nous sont proposées sans cesse. Et effectivement, ce dont on s'aperçoit actuellement, c'est que notre cerveau a besoin de temps de pause, de temps de simple présence, faute de quoi on est en surchauffe très très rapidement, surtout dans ce monde contemporain.
On pense souvent que méditer c'est faire le vide dans sa tête, et est-ce que c'est normal quand on médite si mon esprit vagabonde ?
Et alors ça, c'est une idée reçue, méditer pour faire le vide, qui nous pose plein de problèmes, parce que beaucoup de gens arrivent avec cet espoir. C'est vraiment sympa de pouvoir faire le vide dans sa tête quand on veut s'endormir, quand on veut se calmer, quand on veut déstresser. Mais ça ne marche pas tout à fait comme ça. Notre cerveau ne nous obéit pas si facilement au doigt et à l'œil. Alors, on ne vise pas le fait de faire le vide dans sa tête, on vise simplement le fait de pouvoir prendre un peu de recul par rapport aux pensées, par rapport à ce qu'on appelle le bavardage de nos pensées. On ne peut pas empêcher notre cerveau de produire des pensées, comme on ne peut pas s'empêcher de respirer, mais on peut éviter de se noyer dans ses pensées, de s'y perdre totalement.
Fabien Santès, pour vous, il est très difficile de ne rien faire. En gros, la méditation, ça vous énerve un petit peu?
Oui, enfin, ça m'énerve. Non, parce que les gens qui ont envie de méditer, bravo qu'ils méditent. Enfin,
non, mais pour vous, ça aurait tendance à vous énerver.
Non, c'est juste que ma manière de me recentrer à moi, c'est pas celle-là. Et au contraire, finalement, le bavardage de mes pensées est plutôt très très présent si je m'arrête au fond et que je m'assois sur mon canapé plutôt que d'aller aligner les longueurs de piscine. Donc la manière pour moi, mais je pense que c'est aussi une forme de méditation au fond, en fait. Après, l'idée est de savoir si il faut absolument, on est peut-être dans la caricature, avoir se poser chez soi, faire le vide à l'intérieur de sa tête, etc. Moi, dans ces cas-là, si j'ai envie de me remettre un peu d'aplomb, de vider un peu, je sais pas si on dit se vider la tête ou autre chose, peu importe, j'aime autant y aller en marchant ou y aller en nageant que d'y aller dans quelque chose qui finalement, et vous le disiez, c'est comme faire du sport ou manger 5 fruits et légumes au fond. Si on n'a pas envie, de toute façon, on peut toujours essayer, ça marchera pas. Donc on finira toujours par bouffer des frites. Bah là, c'est pareil, en fait.
Christophe André, peut-on méditer en marchant, en nageant, en faisant la vaisselle?
Oui, peu à peu, dans les apprentissages, au début, on apprend les exercices, effectivement, statiques, immobiles, pour se concentrer un peu sur ce qui se passe, mais après, peu à peu, on s'aperçoit qu'on peut effectivement méditer en marchant, en nageant, en épluchant ses légumes, en vidant la poubelle, en faisant la vaisselle, etc., en travaillant, en lisant. C'est-à-dire, au fond, à ce moment-là, la méditation, c'est simplement le fait de se rendre pleinement présent et conscient de ce que nous sommes en train de vivre. On en parlait tout à l'heure avec Fabienne Santès, puisqu'on circule tous les deux en deux roues. Et ce qu'on
je médite rarement sur ma moto, personnellement. Effectivement, on parlait de ça. Vous méditez sur la moto, vous?
Alors, non.
Vous êtes extrêmement dangereux.
Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que si sur la moto, vous êtes absorbé par vos pensées, vous êtes en danger. Vous n'êtes pas présent. Et la méditation, ce qu'elle nous apporte, c'est nous rendre présents et pleinement conscients de l'instant dans lequel nous nous trouvons. Quand je conduis un deux roues dans la circulation parisienne, j'ai vraiment intérêt à être présent et conscient à ce que je suis en train de vivre.
Beaucoup d'idées reçues sur la méditation de pleine conscience. On pense souvent à cette personne assise dans la position du lotus, pouce et index reliés, et qui psalmodie om, la syllabe sanscrite que l'on retrouve dans l'hindouisme notamment. C'est un peu la caricature.
Et en nageant, je vous imagine même pas ce que ça peut faire.
Christophe André.
Cette caricature sur la méditation qui est à peu près inévitable. Bon, moi, ça me dérange plus tellement, puisque justement, ce qu'on propose, c'est radicalement différent de ça. Vous savez, que ça soit les groupes qu'anime Corinne Isnarbanis à la Pitié-Salpêtrière, ceux que nous avons animés depuis 2004 à Sainte-Anne, eh bien, il n'y a pas de statue de Bouddha, il n'y a pas de coup de gong, il n'y a pas de home, il n'y a pas de position du lotus. On est sur les chaises réglementaires d'hôpital, on travaille avec nos patients sur l'apprentissage de l'instant présent, de la régulation des souffrances, et c'est absolument pas du tout oriental.
Chaises réglementaires de l'hôpital public. Bonjour professeur Corinne Isnarbanis, vous êtes chef du service néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et vous avez publié un très bon que sais-je, la méditation de pleine conscience. Pourquoi utilisez-vous la méditation de pleine conscience dans votre service hospitalier?
Parce qu'on a plein de choses à en attendre, à la fois pour les personnes qui vivent avec des maladies chroniques. Avoir une maladie chronique, c'est vivre beaucoup de stress, de difficultés, d'anticipation, de douleurs, de tas de symptômes que peut-être la médecine conventionnelle peut-être ne prend pas très très bien en charge. Et puis de plus en plus maintenant, c'est aussi pour les soignants. Les soignants ont besoin de travailler, de se préparer, de prendre soin d'eux-mêmes pour proposer une relation thérapeutique avec leurs patients qui soit vraiment qualitative.
Christophe André, à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, la méditation de pleine conscience a été l'un de vos outils pour accompagner certaines pathologies?
Oui, clairement, et notamment pour la prévention des problèmes de dépression et d'anxiété, puisque vous savez que les maladies anxieuses et dépressives, hélas, même quand on a réussi à guérir ou à améliorer les patients, elles ont tendance à revenir. Notre stress a tendance à revenir, notre anxiété, nos tendances dépressives, parce que la vie est compliquée, la vie est difficile. C'est pas parce que je médite que je n'aurai plus d'ennui dans mon existence. Et donc, on s'en sert beaucoup pour cette notion de prévention des rechutes, autrement dit pour apprendre aux patients à être plus robuste face aux difficultés, face au stress, face aux maladies, face au deuil, face à toutes les violences de la vie quotidienne.
Alors la méditation suscite des critiques. Hein. La journaliste Elisabeth Gousseland a récemment publié un papier dans Marianne. Méditation, ça rime avec filon. Elle assimile cette pratique à un nouvel opium du peuple et elle se demande si c'est une thérapie ou une arnaque, une discipline ou une mode. Et elle critique également le fait que le lucratif business de la méditation est d'autant plus contestable qu'il utilise à des fins marchandes 30 ans de recherche en neurosciences.
Oui, bon, moi, les critiques, c'est très bien. Après tout, c'est normal que chaque mouvement, chaque mode, puisqu'il y a vraiment une mode de toute façon de la méditation, soit l'objet de critiques. Alors après, dans les dossiers comme celui dont vous parlez, il y a des choses à prendre et d'autres à laisser. Ce qui est légitime, effectivement, c'est de s'interroger sur les dérives de récupération, des pratiques méditatives, voilà, des fins commerciales. Mais c'est à peu près inévitable. C'est-à-dire, dès que vous proposez quelque chose d'intéressant, eh bien, ça appartient à tout le monde. C'est dans le domaine public, donc chacun en fait l'usage qu'il souhaite.
Corinne Isner-Bernis.
Oui. Moi, je dirais juste trois choses. Je pense que, absolument, il faut discuter de ces pratiques. C'est pas une évidence. Il faut pas les imposer.
C'est pas une panacée.
Il faut, premièrement, dans l'expérience du soin, les évaluer. Et s'assurer qu'on est capable de regarder ce qui se passe et qu'est-ce que ça apporte aux personnes avec qui on les partage, que ce soit des patients ou des soignants. Il faut s'adresser à des personnes qui sont formées. Et de ce point de vue, on a en effet pas beaucoup de visibilité aujourd'hui, parfois, sur la formation des personnes qui enseignent. Donc ça, je pense que c'est très important. Et donc, la porte est ouverte pour travailler sur ces pratiques, réfléchir, analyser, voilà.
Fabienne Santès.
Christophe disait tout à l'heure, c'est aussi une mode. Et c'est vrai que c'est devenu aussi une mode. Et la question que je me pose est de savoir si le fait que ce soit une mode et qu'on en trouve effectivement désormais un peu partout, dans n'importe quel cadre, ça ne met pas en péril finalement le travail que vous pouvez faire à l'hôpital. Sérieux ? Qui pour le coup là a vraiment un sens avec les malades et aussi avec les soignants d'ailleurs.
Oui, après c'est toujours la même chose. On peut dire qu'au fond la mode permet de faire connaître ces pratiques à des gens qui en seraient restés éloignés, les faire sortir d'un petit cercle de privilégiés, bien informés, qui lisent l'anglais, etc. Et puis d'un autre côté, on peut regretter que ça puisse un peu les dévoyer, en donner un aspect petit truc, nouveau petit truc, flash, facile,
gadget. Parce que c'est gadget. Quoi la mauvaise technique de la méditation en fait? C'est quoi une mauvaise méditation? C'est quoi?
La méditation, elle peut être mauvaise soit par les fausses promesses, voilà, ça,
vous aurez tout promis,
voilà, soit par de mauvaises instructions, de mauvaises formations, trop rapides, trop superficielles ou trop fanatisées finalement, pas de salut en dehors de la méditation.
Absolument.
Quelles sont les contre-indications, les effets indésirables éventuels de la méditation de pleine conscience, Corinne Isner-Bernis?
Oui, c'est l'autre élément, c'est l'idée que la méditation n'est pas pour tout le monde tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des contextes et des situations dans lesquelles c'est pas du tout approprié pour une personne de débuter.
Par exemple.
Alors souvent, toutes les pathologies, on va dire, dépressives ou anxieuses, non prises en charge, non traitées, quand on est vraiment dans quelque chose de très envahissant, de très douloureux, on peut pas demander à quelqu'un de s'asseoir pour méditer. Il y a tout un tas de situations qui doivent être évaluées. C'est la raison pour laquelle on doit discuter, connaître les personnes qui veulent participer à ces formations et envisager avec eux si c'est le bon moment, ou pas. Et peut-être ça peut être plus tard ou peut-être pas du tout.
Allez, pour ceux qui le souhaitent, je vous propose une première méditation en direct sur France Inter. C'est une première. Fabienne Santet, vous allez donc essayer de méditer. une première méditation sur l'instant présent, regardez en direct et en vidéo sur la page Facebook de France Inter. Dans quelle position dois-je me mettre pour méditer d'abord, Christophe André?
Alors, peut-être, si vous permettez,
Bien sûr.
On fait pas du music-hall, hein, c'est pas l'hypnose de music-hall, regardez les copains comme c'est patin, on essaie de montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc je voulais faire cette petite précision quand même, c'est vrai que c'est un peu casse-gueule, c'est l'histoire de méditation en direct. Donc, la posture, c'est le truc le plus important quand on médite, on démarre par la posture. J'allais dire la bonne posture, en tout cas, la posture qui va nous aider le plus. Donc c'est une posture droite. Si je suis avachi, j'essaie de me redresser sur ma chaise, d'ouvrir les épaules et de poser les mains sur la table, sur mes genoux. L'idée, c'est que mon corps est droit sans que j'aie à être crispé, à fournir d'efforts. Et puis il y a la posture de l'esprit qui est juste la curiosité et la présence. Je regarde ce qui se passe, je ne cherche pas à obtenir quelque chose de précis, faire le vide, être super zen tout de suite. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe à cet instant? Qu'est-ce que ça veut dire de, par exemple, me sentir vivant à cet instant? À quoi je vois que je suis vivant? est-ce que je peux finalement me dire que je suis vivant parce que je sens que je respire ? Je prends un petit moment pour ressentir mes mouvements respiratoires, chaque inspiration, chaque expiration. Est-ce qu'être vivant, c'est sentir mon corps ? Alors, je prends un moment pour ressentir mon corps. Finalement, je sors un peu de mes pensées, je descends dans mon corps. Comment ça se passe dans mes pieds, mes jambes, mon ventre, ma poitrine, mes bras, mon visage ? Est-ce qu'être vivant, c'est entendre, écouter des sons ? Quels sont les sons présents autour de moi ? Quels qu'ils soient, hein, même s'il y a une perceuse, un motoculteur, un bruit de camion, c'est pas grave, c'est ce qui se passe à cet instant, donc j'essaie d'être présent à tous ces sons et de rester de mon mieux dans cette présence, au mouvement de mon souffle, à mon corps, à la sensation corporelle, au son qui m'entoure. Et puis, je m'aperçois aussi qu'il y a un autre truc dans cette expérience de l'instant présent, c'est que j'ai des pensées. Normalement, mon cerveau, depuis le début de l'exercice, a produit des tas de pensées. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Où nous amène-t-il ? Est-ce que c'est bien utile ? Un gourou infiltré à France Inter ? J'ai pas que ça à faire. Ah zut, tout à l'heure, j'ai mal accroché mon vélo, j'espère qu'on va pas me le piquer. C'est-à-dire des tas de pensées qui tendent à nous emporter hors de la situation, hors de l'instant présent, hors de ce que nous sommes en train de vivre. Donc, c'est pas grave, c'est normal, le cerveau fait son boulot, hein, il produit des pensées comme nos poumons produisent des mouvements respiratoires. On accepte ça, on permet à ces pensées d'être là, mais on reste aussi connecté à notre souffle, à notre corps et au son qui nous entoure. Et donc, vous voyez, c'est juste un acte de présence, de prise de conscience de notre expérience de l'instant. Et là, on peut rester une minute, une heure, une journée, juste à observer ça, mais là, on va arrêter tranquillement l'exercice.
Merci pour cette première méditation, Christophe André, Fabienne Saint-Esse.
Alors, deux choses d'abord, si je puis me permettre. D'abord, ce que je trouve formidable dans ce que fait Christophe, puisqu'on est à la radio, c'est les blancs. Les blancs à la radio, c'est la chose la plus merveilleuse du monde parce qu'on ne s'autorise plus ce genre de choses. Et c'est merveilleux de pouvoir se dire que parfois, y compris dans un média où on a le sentiment qu'il faut parler tout le temps parce que sinon les gens vont partir, on peut de temps en temps entendre rien, en fait, ce qui est formidable. La deuxième chose, pardon, j'espère que je vais pas dire une hérésie, mais je me suis fait hypnotiser pour arrêter de fumer, moi, il y a quelques temps. Alors, c'est pas la foi qui a réussi, mais peu importe. C'est toujours des moments différents, les arrêts de fumer. Et au fond, j'entends la même chose, en fait. Ce à quoi vous nous faites participer là, j'entends la manière, ce qui s'était passé pour moi au moment de me faire hypnotiser. Et au fond, et alors, on sait tous que l'hypnose, par ailleurs, ça n'a rien à voir avec le fait de s'endormir. On n'est pas, comme vous dites, dans une émission de télé où on nous fout faire les pieds au mur. Donc, au fond, est-ce que c'est pareil. Est-ce qu'il y a quelque chose de très similaire entre l'hypnose thérapeutique et la méditation telle que vous la pratiquez ?
Il y a des choses voisines. C'est la même famille de démarches entre l'hypnose, la sophrologie, la méditation, il y a la méthode Vitoz aussi. C'est tout un ensemble de techniques qui tendent à attirer notre attention vers des phénomènes dont on n'est pas forcément conscient habituellement, l'état de notre corps, la manière dont nous respirons, la teneur et l'influence de nos pensées. Et ces techniques sont également différentes d'un certain nombre de points de vue. Par exemple, les images en neuroimagerie, le fonctionnement du cerveau est différent en hypnose et en méditation. Le fonctionnement de la conscience aussi, en général, dans l'hypnose, on tend à faire focaliser la personne sur un élément précis, là où, à un moment donné, dans la méditation de pleine conscience, on va plutôt lui conseiller d'ouvrir largement son attention à tout ce qui représente son expérience. Mais il y a un cousinage, effectivement.
Corinne Isnard-Bannis, est-ce que la structure cérébrale des très grands méditants est différente du commun des mortels ?
Oui, alors on met souvent en avant ces images de d'IRM fonctionnel, c'est-à-dire de zones du cerveau qui ont changé en taille, en activité chez des grands méditants. La réalité, c'est que bien sûr c'est vrai, ça souligne l'importance de la pratique, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il n'y a pas que la méditation qui fait ça. Si vous faites du vélo, que vous jouez du violon, le cerveau se modifie en fonction de ce que nous faisons tous les jours, et grâce à la méditation comme grâce à d'autres types d'activités. L'autre élément peut-être qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement les grands méditants. On n'est pas obligé d'aller passer sa vie dans les montagnes du Tibet pour voir des modifications cérébrales. Il y a des études qui montrent que dès qu'on a commencé à suivre une formation, à mettre en place une pratique pour quelques semaines, on peut voir déjà des modifications au niveau neurologique.
Christophe André ?
Oui, c'est ce qu'on...
Les premiers bienfaits, c'est au bout de combien de temps ?
Les études dont on dispose montrent qu'en général, après 3 mois d'enseignement, les premiers petits cycles d'initiation, c'est à peu près 3 mois, on a déjà des résultats, à la fois sur les questionnaires cliniques, subjectifs, mais aussi sur certaines données d'immunologie, de neuroimagerie, donc c'est assez encourageant quand même.
Allez, vous pouvez poser toutes vos questions sur la méditation au 01 45 24 7000. N'hésitez pas à appeler si c'est la première fois que vous méditez avec nous ce matin. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot, qui attend toutes vos questions sur la page Facebook de Grand-Mère vous fasse, à la réalisation Stéphanie Texier et Laurent Voulzy. Ça fait plaisir à Fabienne Synthèse, je sais.
C'est vrai.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait. Et la petite fille chantait.
Et la petite fille chantait.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
Everybody's doing a brand new dance now.
Échapper à la foule. Excuse me sœur, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
It's been a hard day's life.
Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au durlot. Et je me suis fait virer.
Et je me suis fait virer.
Et les Beach Boys chantaient.
Et les Beach Boys chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait
round, round, get around.
Laurent Voulzy, Rock Collection.
Concentrez-vous sur votre respiration.
Grand bien vous fasse.
Et à quoi est-ce qu'on joue ici ?
Je vous laisse à vos méditations.
Et on se fait !
Sur France Inter.
10h30, émission spéciale ce matin. Christophe André vous propose de méditer en direct pour la première fois sur France Inter. Avec nous également le professeur Corinne Isnarbanis, chef adjoint du service néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et avec nous également notre camarade du 18-20, Fabienne Synthèse, qui avait une question hors antenne.
C'est vrai, je me demandais s'il y avait un âge, en fait, si on pouvait méditer avec des enfants très jeunes ou pas.
Oui, on a montré que des enfants à partir de l'âge de 3-4 ans peuvent faire des exercices adaptés, évidemment. On leur raconte des petites histoires, on fait des exercices assez brefs, mais ça fonctionne très bien. Et paradoxalement, c'est l'âge où on apprend le plus vite. Après, les ados, ils sont un peu plus rétifs, ça les passionne moins.
Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, une précision justement, en milieu scolaire, ça a été testé aux Pays-Bas depuis 10 ans, la méthode fonctionne, les professeurs ont été formés, il y a énormément d'enfants qui suivent ce programme, y compris jusqu'au lycée, donc c'est une pratique quotidienne avec des micro-temps de silence, des marches lentes, des temps choisis, comme l'arrivée en classe ou le retour après la cour de récréation, où on suppose qu'évidemment ils sont bien excités, qu'il faut les calmer. Alors en France, il faut savoir quand même que depuis 2015, il y a une étude qui a été lancée au niveau national par une unité de l'INSERM pour mesurer justement les effets de la méditation sur la réussite scolaire et le bien-être des enfants. Actuellement, il y a quand même 7000 enfants dans 155 établissements qui pratiquent la méditation. Et les résultats de cette étude vont être présentés là, ce mois-ci, pour voir si ça pourrait déboucher sur une généralisation en milieu scolaire.
Oui. Et c'est intéressant parce que le mouvement est parti de la base dans l'éducation nationale, mais un peu comme en médecine d'ailleurs. C'est-à-dire, beaucoup d'établissements ont commencé à prendre des initiatives à leur niveau. Certains profs, certains chefs d'établissement. Il y a plusieurs associations d'enseignants comme l'AME ou Enfants Français Attention, il y a la Fondation Sève aussi de Frédéric Lenoir qui propose des formations gratuites ou très très accessibles aux enseignants et c'est effectivement probablement quelque chose qui pourra être proposé de façon assez banalisée, j'allais dire, à beaucoup d'enfants, à la fois pour les capacités d'attention, mais aussi pour la régulation des émotions, pour le stress.
Valérie Crova, notre consoeur de la cellule internationale de Radio France, nous demandait, elle était là tout à l'heure en studio, s'il fallait fermer les yeux ou pas pendant la méditation.
Alors, tout est possible. C'est-à-dire, la plupart du temps, nous, ce qu'on recommande aux débutants, c'est de fermer les yeux parce que c'est plus simple de se concentrer sur ce que nous vivons dans notre corps, notre respiration et nos pensées, les yeux fermés. La plupart des enseignements traditionnels de méditation conseillent d'avoir les yeux mi-clos, c'est-à-dire les paupières à moitié fermées, on regarde dans le vague, vers le bas, mais on peut aussi méditer les yeux ouverts, c'est-à-dire... En tout cas, le message, c'est que pour méditer, il faut être bien réveillé. Si vous avez mal dormi, si vous avez très sommeil, l'urgence, c'est de dormir. Et après, on médite.
Benoît nous demande sur notre page courriel, est-il possible que je pratique la méditation sans le savoir en pratiquant le jogging ? La course à pied me libère l'esprit, cela m'apporte un bienfait considérable. Pour preuve, je ne peux pas courir en écoutant de la musique.
Il a raison, c'est un gâchis effectivement de courir, de faire de l'exercice en écoutant de la musique ou des infos ou quoi que ce soit. Un des messages de la méditation de pleine conscience, c'est d'être présent à ce que nous faisons. Chaque fois que nous sommes à 100% dans ce que nous faisons, eh bien, nous nous faisons du bien et nous faisons le truc beaucoup mieux et beaucoup plus pleinement.
Question très intéressante d'Anouk qui nous demande quelle est la différence entre la relaxation et la méditation, Corinne Isnarbanis.
Alors, on peut avoir, c'est une question qu'on nous pose tout le temps, hein. On peut avoir un sentiment de relaxation quand on pratique la méditation, mais on peut aussi s'agacer prodigieusement quand on pratique la méditation.
Et c'est normal.
Et c'est normal, puisque l'intention, c'est d'essayer d'entrer simplement en relation avec notre expérience. Donc, il n'y a pas d'objectif à atteindre, et en particulier, il n'y a pas à chercher à se détendre avec la méditation. C'est ça la différence en fait.
J'aimerais qu'on revienne sur les bienfaits avérés de la méditation de pleine conscience prouvée par la science. Quelles sont les dernières découvertes scientifiques ?
En gros, il y a deux familles de données. D'abord, ce qu'on appelle les résultats cliniques. Autrement dit, qu'est-ce que ça fait sur la santé, le bien-être des patients? Donc, beaucoup d'études, là, ça fait très longtemps, et les plus récentes confirment tout ça, montrent que c'est un très bon outil de gestion du stress. Faut pas limiter à ça, mais ça aide à affronter les adversités existentielles avec une qualité de présence, en partant moins dans ses appréhensions, en réagissant de manière moins impulsive, en ruminant moins. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est très précieux pour toutes les maladies anxieuses et dépressives. C'est très précieux pour toutes les personnes qui sont confrontées à des souffrances médicales. Toutes les maladies chroniques dont Corinne s'occupe notamment, mais elle pourra en parler mieux que moi. On ne se rend pas compte à quel point avoir une maladie chronique est quelque chose qui est usant au quotidien. Les craintes que ça nous procure, les souffrances, les contraintes du traitement médical. Pour ces patients aussi, on a beaucoup d'études montrant que leur qualité de vie est très améliorée par la méditation. Et puis, il y a des études sur l'impact biologique qui sont encore plus bluffantes, où on montre que la pratique régulière de la méditation améliore la qualité de la réponse immunitaire, semble freiner le vieillissement cellulaire, limite l'inflammation au niveau des variables biologiques. Et donc, c'est très étonnant, hein, cet impact.
On parlait tout à l'heure des jeunes. Il y a une grande étude européenne en cours qui est conduite par des chercheurs de l'INSERM et qui s'est intéressée à la méditation pour les seniors, avec vraiment une réflexion autour du fonctionnement cérébral, d'un certain nombre de données cognitives, et dont on va avoir les résultats probablement en partie durant la journée universitaire qu'on organise en janvier à Sorbonne Université. Gaël Chetla, d'autres chercheurs, hein, c'est un consortium international. Donc il y a des choses qui sont en cours et qui s'intéressent à des données beaucoup plus fondamentales et scientifiques.
Comment la méditation peut-elle soulager les douleurs chroniques ? Je rappelle que vous utilisez la méditation dans votre service de néphrologie à la Salpêtrière. Expliquez-nous le processus.
Alors, quand vous avez très mal quelque part, vous, Ali, que ça dure longtemps, qu'est-ce qui se passe pour vous, finalement ? Cette douleur, ça se passe comment ? Elle finit par nous envahir, en fait.
Je m'associe à cette douleur.
Souvent, l'impression qu'on a, quand on a mal aux dents, on ne peut plus penser à autre chose qu'à la dent qui fait mal. Alors là, c'est une douleur aiguë, mais c'est encore pire quand on a une douleur chronique. Et donc, là où la méditation peut être intéressante, c'est à deux niveaux. La première des choses, c'est que c'est comme c'est mon image cinématographique, c'est comme si on dézoomait. Pratiquer la méditation, c'est s'intéresser aux sensations de son corps, pas seulement là où on a mal. Donc c'est reconquérir de l'espace de l'expérience sensorielle dans des endroits où on a pas mal. Et du coup, ça replace en quelque sorte la douleur dans un environnement où on peut expérimenter d'autres choses avec son corps que la douleur. On voit vraiment quand on travaille avec des patients douloureux chroniques, leur espace s'est rétréci autour de leur douleur. Ils ne sont plus que leur douleur. Donc ça, c'est le premier élément qui peut vraiment apporter une aide importante. La deuxième chose, c'est que quand on a une douleur, immédiatement, on a le mental qui se met en jeu avec des anticipations anxieuses. Si vous commencez à avoir une douleur que vous connaissez, si vous êtes habitué, de, par exemple, de calculs rénaux, on a beaucoup de patients qui font des coliques néphrétiques dans notre service, dès que vous avez une petite douleur dans le dos, vous allez craindre que c'est à nouveau une crise douloureuse intense qui va arriver, peut-être. Elle va peut-être jamais arriver, mais vous, vous êtes déjà dans la perspective de celui qui a une colique néphrétique. Et donc, tout ce temps avant et après la douleur, c'est juste du mental, c'est de la souffrance émotionnelle, c'est de la culpabilité, de la frustration, de la colère, de l'injustice. C'est tout un tas d'émotions qui sont mises en jeu avec des pensées. Et là-dessus, la méditation peut nous aider parce qu'elle nous ramène juste à l'expérience de qu'est-ce qu'est la douleur en fait, la réalité de l'expérience douloureuse. Juste pour finir, la méditation ne va pas faire disparaître la douleur, ni la diminuer. Mais c'est tout cet environnement sur lequel on va pouvoir vraiment travailler et vivre mieux les choses.
J'aimerais prendre un exemple concret. J'ai un ami skieur de haut niveau, Samir Azimani, qui s'est pété la clavicule lors d'un accident de ski, qui a très très mal, qui me disait là récemment que les antidouleurs ne suffisaient pas. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Et à des tas d'autres auditeurs qui souffrent de douleurs chroniques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces moments où voilà, ils sont absorbés par leur douleur?
Bien sûr, la première chose, c'est que les douleurs doivent toujours être prises en charge médicalement. Il faut savoir quelle est cette douleur, à quoi elle correspond et faire les choses dans l'ordre. Quand on a une douleur chronique et qu'on sait que cette douleur ne peut pas être résolue, malheureusement, beaucoup de gens sont dans cette situation, peut-être comme votre ami, bien là, on se tourne la plupart du temps vers d'autres approches. Alors, il y en a d'autres que la méditation de pleine conscience.
Mais en l'espèce,
la méditation de pleine conscience, c'est vraiment une façon de pouvoir apprivoiser, en quelque sorte, sa douleur. Et ça peut paraître très paradoxal et très surprenant, mais ce qu'on va proposer aux patients, c'est de s'intéresser à leur douleur. C'est-à-dire de l'observer, de la ressentir. En fait, on a toujours un peu peur et on essaye de se défaire de la douleur. On voudrait ne pas la voir, on voudrait ne pas la ressentir. Et ce que propose la méditation, au contraire, c'est d'aller voir exactement qu'est-ce que c'est que cette douleur. Parce que la découverte, ça peut être aussi que, à tel moment, la douleur, finalement, elle est moins forte, alors qu'on n'a rien fait de spécial. Ou dans tel autre moment, la douleur, elle est là, mais si je porte mon attention sur d'autres sensations dans mon corps, cette douleur, elle va être moins présente dans mon esprit. Elle va moins me faire souffrir. Donc en fait, évidemment, on ne fait pas ça en 5 minutes. Il faut prendre un petit peu de temps pour découvrir ces approches. Mais c'est vraiment créer un autre lien avec une douleur physique et pouvoir vivre autre chose que sa douleur physique.
Question de Sandra qui nous demande: j'ai des migraines fréquentes, une à deux par semaine, qui durent 2 à 3 jours. Pensez-vous que la méditation de pleine conscience peut aider à réduire les fréquences des crises et surtout comment trouver un professionnel compétent? Ça revient beaucoup là.
Il y a deux questions.
D'abord, la première question.
La première question, c'est d'aller voir un spécialiste des migraines. Ça me paraît important. Après, quand on est migraineux, évidemment, peut-être Sandra ressent ce sentiment d'injustice, cet agacement, cette anxiété d'être constamment empêchée dans sa vie de tous les jours de faire des choses. S'il y a une migraine qui survient, elle ne pourra pas faire ce qu'elle avait prévu de faire aujourd'hui. Et ça, c'est de la souffrance. Donc, bien entendu, la méditation de pleine conscience va nous aider à peut-être diminuer le stress du quotidien, à peut-être identifier des facteurs déclenchants de certaines situations. En fait, la méditation, ce qui est passionnant, c'est que c'est une façon vraiment de réapprendre à prendre soin de soi. Et dans le cadre de la maladie chronique, quelle qu'elle soit, c'est vraiment un outil fondamental de pouvoir prendre soin de soi et s'observer.
Christophe André, comment la méditation agit sur le stress? Pourquoi c'est efficace sur le stress?
D'une part, par les mécanismes psychologiques dont parlait Corinne, c'est-à-dire qu'on dézoome. Plus nous souffrons, plus notre attention se resserre sur nos souffrances. Et plus nous méditons, plus nous apprenons à desserrer cet étau. Donc ça, c'est vraiment le grand mécanisme sur le plan psychologique. Et après, très mystérieusement, effectivement, vous savez que le stress, c'est un grand dérégulateur biologique. Il dérégule tous nos mécanismes, justement, immunitaires. sphincter, il provoque de l'inflammation, etc. Et la méditation semble même de compenser, de freiner toute cette chaîne des dégâts biologiques du stress pour des raisons encore un tout petit peu hypothétiques sur lesquelles on ne peut pas trop spéculer, mais qui sont bien réelles.
Fabienne Synthèse.
J'ai juste une question très courte. Est-ce qu'une micro-méditation, ça existe? Est-ce qu'on peut apprendre des techniques de micro-méditation sur un coup de stress, par exemple, histoire de redescendre?
Oui, on va en proposer une tout à l'heure, mais ce qu'il faut bien expliquer, c'est que ces techniques de micro-méditation, de méditation brève, ne marchent que si vous êtes déjà très entraîné auparavant. On ne peut pas commencer l'apprentissage sous forme de petits flashs de 1 minute.
Marie-Laure Zonchain de Femme Actuelle.
Oui, justement, la méditation pour les nuls, ce serait comment? C'est-à-dire le point zéro, on y va aujourd'hui, on démarre, qu'est-ce qu'on fait? On prend un livre, on vous écoute, on va suivre un cours, des spécialistes, comment on fait?
Je crois qu'il y a 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de découverte. Tout à l'heure, Fabienne Synthèse disait à quel point elle avait du mal avec ça. Et on voit bien qu'il y a des gens pour qui la méditation, ce n'est pas une bonne idée. Vaut mieux qu'ils courent, vaut mieux qu'ils fassent de la couture, du jardinage, etc. Donc, premier point, on s'achète un livre avec un CD, on teste ça, ou on va sur une de ces petites applis dont certaines sont de très bonne qualité. Première étape, si ça nous plaît, on va se former auprès de gens compétents. Il y a une association qui s'appelle Association pour le développement de la mindfulness, qui a un site et qui recense des praticiens bien formés.
Comment ne pas tomber sur un gourou farfelu ou dangereux?
Les gourous, de toute façon, c'est assez facile à repérer, j'allais dire. C'est des gens qui vous expliquent qu'ils sont les seuls à détenir la vérité.
C'est ceux qui font
Voilà. Cherchent à vous couper un petit peu toute forme d'esprit critique et qui vont vous demander des sommes croissantes. Donc là, c'est mauvais signe. Donc, il vaut mieux aller vers cette association de thérapeutes.
Colas Zibo, vous êtes le responsable de la cellule vidéo de France Inter. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il paraît que vous méditez énormément. Ouais. De quel type de méditation s'agit-il et pourquoi méditez-vous, Colas?
Alors moi, je pratique la méditation qu'on appelle Vipassana.
C'est quoi?
Alors, c'est une technique qui est un peu exigeante. donc là, on parlait à l'instant de savoir comment est-ce qu'on découvre la méditation. Là, c'est une technique qui requiert qu'on passe 10 jours à méditer pendant 10 heures par jour pour commencer cette technique. Ouais.
Et c'est pas pour Fabienne Synthèse.
Ah non,
c'est mais c'est pas pour les débutants.
C'est un peu effrayant au début, mais c'est un exercice formidable pour observer vraiment et prendre le temps de méditer et de regarder les changements qui se passent en soi.
Pourquoi méditez-vous, Colas? Et qu'est-ce que ça vous apporte?
Alors pour plein de raisons, disons que pour les personnes de ma génération, le numérique c'est un truc qui est omniprésent et le numérique c'est quelque chose qui a tendance à absorber un peu notre attention et qui a tendance aussi à isoler notre corps. On devient quelque chose qui est principalement cérébral et la méditation ça permet aussi de se reconnecter sur comment est-ce que notre corps fonctionne, de se départir de ces applications qui à force de nous solliciter avec des notifications en permanence absorbent complètement notre mental.
C'est intéressant ce que dit Colas Corinne Isnarbanis. Pourquoi est-ce que la méditation est-elle bénéfique pour améliorer notre attention?
Alors d'abord, ce que j'adore dans ce qui vient d'être partagé, c'est souligner quand même que la méditation, justement, c'est retourner dans son corps aussi. Et ça, quand on écoute les patients qu'on a accompagnés dans le service, ils le disent énormément. Dans toute maladie chronique, on est frappé de voir à quel point on est dans le déni de son corps. Quand le corps marche... Mais bon, là, c'est assez différent de l'exemple que vous donnez, hein, mais le numérique aussi nous éloigne quelque part de notre corps. Donc la méditation nous ramène, en fait, à l'intérieur du corps, simplement. C'est une observation des sensations corporelles. Et ça nous réconcilie entre le mental et le physique, et c'est essentiel pour la qualité de vie.
Christophe André.
Oui, et puis vous savez, ce qu'on découvre en général quand on fait un exercice de méditation, le premier obstacle, c'est que instantanément, notre cerveau nous dit « t'as mieux à faire, c'est compliqué, c'est chiant, on fait autre chose, t'as du boulot, t'es en retard, t'as des mecs ». Et donc, apprendre à voir cette dispersion mentale, à revenir vers l'exercice, ça repart, ça, c'est quelque chose qui muscle nos capacités d'attention. Faire attention à ce qu'on est en train de faire et ramener notre attention vers ce qu'on a choisi de faire.
Colas?
Oui, absolument. Et du coup, quand on reçoit 20 mails en une heure, parfois c'est dur de se concentrer sur le moment présent. Et la méditation, c'est un outil formidable pour ça. Ouais.
Allez, Christophe André, vous nous proposez une deuxième méditation sur le souffle, à regarder en direct et en vidéo sur la page Facebook de France Inter. Oui. Et si vous conduisez, bah vous méditerez en podcast. Hein.
Oui, oui, mais alors on peut méditer les yeux ouverts. On a vu tout à l'heure que c'était très possible. Le souffle, c'est un truc qu'on va retrouver dans toutes les pratiques méditatives, ou même la sophrologie, l'hypnose, etc. C'est vraiment très important parce que ça permet de poser notre attention sur quelque chose qui est une cible mouvante, qui bouge sans arrêt, et donc ça facilite le travail. Donc, pour cet exercice, eh bien, redressez-vous si vous souhaitez le faire dans les règles. Ouvrez vos épaules. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou mi-clos, comme ça vous arrange, ou les fermer si vous n'êtes pas au volant. Et rappelez-vous, on n'a rien à atteindre. On ne fait pas un truc où il faut obtenir à tout prix un but. On va juste suivre notre souffle. Suivre notre souffle, ça veut dire le ressentir, tout simplement, pas réfléchir au concept de respiration, juste ressentir notre souffle. Par exemple, le mouvement de l'air qui passe par notre nez ou notre gorge à chaque inspiration et à chaque expiration. On prend un tout petit moment pour observer, ressentir, se rendre présent à ce mouvement de l'air, à l'inspiration et à l'expiration. On peut aussi se rendre présent au mouvement de notre ventre et de notre poitrine, là encore, sans chercher à les contrôler. On ne cherche pas à respirer de telle ou telle façon. On laisse notre corps faire le boulot. Il fait ça très très bien. Simplement, on ouvre bien les épaules, on se tient droit pour qu'il puisse produire tranquillement ses mouvements respiratoires et on ressent la poitrine et le ventre qui s'élèvent et qui s'abaissent à leur rythme. Et puis on peut ouvrir encore plus largement et se rendre présent à tout notre corps qui est en train de respirer. Qu'est-ce que ça fait ? D'être présent, d'être attentif, de ressentir tout son corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Chaque inspiration et chaque expiration, que se passe-t-il dans nos corps? Que ressentons-nous d'une inspiration à l'autre? Et si notre esprit est parti dans des pensées, c'est ok, tout va bien, c'est normal, le cerveau fait son boulot, il nous présente des pensées, on les suit, on s'en aperçoit, on revient tranquillement au souffle. Et de notre mieux, on essaie de suivre chaque inspiration en entier, du début à la fin. Et on ne passe pas à l'inspiration d'après. On reste bien sur les sensations de l'inspiration en cours, et on reste bien sur les sensations de l'expiration en cours. Et c'est jamais la même chose. Aucune inspiration ne ressemble à une autre et aucune expiration ne ressemble à une autre. Voilà, c'est tout simple. Là aussi, on pourrait rester des heures, mais on va arrêter. Et voyez, c'est un truc très simple. On se rend présent à notre corps qui respire.
Merci beaucoup, hein, Christophe André, pour cette deuxième méditation en direct, hein, pour la première fois sur France Inter. Comment multiplier les instants de méditation tout au long de la journée, Christophe André?
Eh bien, justement.
Tu parlais de la vaisselle tout à l'heure. Moi, j'adore méditer quand je fais la vaisselle.
Oui, oui, oui.
C'était... Vous pouvez venir chez moi.
J'ai quelques casseroles. J'ai un plat gratin qui résiste. Je
vais l'amener demain. Au début, quand on apprend la méditation, il y a deux moments séparés. Il y a d'abord les moments où je médite et puis les moments où je ne médite pas. Quand je ne médite pas, c'est le grand n'importe quoi. Je stresse, je speed, etc. Et puis, peu à peu, on s'aperçoit qu'on peut superposer ces deux temps, qu'on peut être dans l'action et dans la présence à l'action. Et là, on est aussi dans la méditation.
Allez, vous pouvez poser toutes vos questions sur la méditation au 01 45 24 7000.
Say goodbye, and if you are leaving, can you leave your number? I'll pack my build the railways, firm up all the roads. No one is leaving now, this is your home. And the horses, the foxes, the sheep and the cows bow down on their knees to the fanfare of progress, it's always the same. We cheer on the clowns as they roll into town, but their faces look tired and sad to me, and carry the terrible things they've seen. All lost in a painting of a sky colored oil. In this merry land, you are my crows, my window rattlers, perfume valley criers, over dark ponds of merry England, the deep space echoes. Get on your mo. What did you say? Mobility.
The Good, The Bad and The Queen interprété Maryland.
Vous avez la ligne, hein. Vous devez faire énormément de sport, non?
Grand bien vous fasse.
Non, juste un peu de méditation. Mais j'ai un bon transit.
Sur France Inter.
10h53, émission spéciale ce matin. Chris Affondré vous propose de méditer en direct pour la première fois sur France Inter. Avec nous également le professeur Corinne Isnarbanis et notre camarade du 18-20. Fabien Sintès, un très joli mail de Zic qui nous dit « Je suis luthier, je travaille à l'ancienne. Le ponçage et le vernis au tampon sont pour moi une forme de méditation. L'esprit se détache du quotidien. On pense au bois, il se révèle peu à peu et au final, on en sort reposé et heureux. » Chris Affondré.
Oui, on voit une réhabilitation de toutes les tâches manuelles actuellement, l'artisanat, le jardinage, etc. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien dans ce monde ultra digitalisé. Et effectivement, c'est une forme de méditation en action.
Corinne Isnar-Banis.
Juste deux commentaires. Tout le monde peut méditer. C'est une faculté naturelle de l'être humain. Donc, effectivement, c'est une expérience que tout le monde peut avoir eue dans différents contextes. La deuxième chose, c'est qu'il y a des études qui montrent que de ramener son attention à ce que l'on fait, c'est-à-dire à l'instant présent, à l'expérience de l'instant, ça rend heureux.
Christophe André, nous vivons tous des événements, des émotions désagréables. C'est peut-être le cas en cette période de profonde crise sociale, politique, morale. Pourquoi la méditation permet-elle d'atténuer des états déplaisants, des émotions désagréables?
Alors, pour plein de raisons, mais d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas de s'anesthésier.
Bien sûr, bien sûr.
La logique de la méditation, c'est la suivante. C'est-à-dire, quand on est confronté à des choses qui nous agacent, qui nous heurtent, qui nous font souffrir, qui nous scandalisent, etc., de l'adversité, il y a une réaction qui est tout à fait légitime. C'est d'essayer d'agir sur cette situation réelle. Et puis, il y a les effets latéraux. Parfois, on surréagit, on se surangoisse, on se surénerve, on se suragite. Et cette partie-là, que la méditation se propose de pacifier, pas notre capacité à réagir aux troubles du monde, évidemment.
Corinne Isnar-Banis.
Oui, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour les patients, ils nous racontent très bien, par exemple, dans la maladie chronique, ils méditent dans le scanner, en attendant leur résultat biologique. Dans tous ces avants, où on anticipe et où on s'énerve pour rien, parce qu'on n'est pas encore dans l'événement.
Daniel Morin, bonjour.
Oui, bonjour.
J'ai beaucoup ri ce matin quand j'ai écouté votre chronique consacrée à notre émission spéciale. Ouais. Alors, vous allez jouer le jeu de la méditation.
Hein, j'ai dit que j'allais jouer le jeu.
Eh ben, très bien. Merci d'être venu, Daniel. Vous nous proposez une dernière méditation, Christophe André, pour accueillir une émotion difficile, une méditation à regarder en direct et en vidéo sur la page Facebook de France Inter.
Absolument. Et pour en faire plaisir de Daniel Morin, qui aime les gongs, les clochettes tibétaines et les bâtonnets d'encens, j'ai amené mes petites clochettes pour signaler le début de l'exercice.
Vous avez très belles clochettes, si je peux me permettre.
Alors, l'idée de cet exercice, c'est d'apprendre à mieux souffrir. On ne peut pas ne pas souffrir, mais il y a des façons de souffrir qui nous diminuent, qui diminuent notre capacité d'action et d'autres qui la croissent. C'est un exercice classique dans la méditation qu'on appelle un espace de respiration. 3 minutes. Première minute, si je suis en train de souffrir, je viens de me fâcher avec quelqu'un, j'ai des soucis récurrents, quelque chose s'est passé qui me tourmente. Je décide d'aller visiter cette souffrance, de prendre conscience de ma manière d'être stressé, heurté, en colère, énervé, attristé, de me relier donc à mon expérience douloureuse. Et c'est toujours la même chose qu'on a vu lors des deux exercices précédents. Que se passe-t-il dans mon corps? Cette souffrance est présente à quel endroit de mon corps? De quelle manière elle me pousse à respirer? Est-ce que ma respiration s'est bloquée? Quelle pensée fait-elle naître en moi? Donc je prends le temps, d'abord, d'aller à la rencontre de cette souffrance, de bien comprendre et analyser de quoi elle est composée. Et ça, c'est un grand paradoxe. En général, on essaie d'éviter de souffrir. Là, on rentre dans la souffrance pour mieux en sortir. Deuxième étape, on ne fait que respirer. On se recentre sur son souffle, chaque inspiration, chaque expiration, pendant à peu près une minute. Inspiration, expiration, on suit le souffle, tout simplement. Et puis la troisième étape, c'est une étape de retour à la souffrance et à la réalité. Je reprends contact avec ce qui se passe en moi. Que suis-je en train de vivre? De quelle manière mon corps réagit à ce que je suis en train de vivre? Quel genre de pensée, d'impulsion, d'envie d'agir sont en train de naître en moi? Est-ce que c'est là que je veux aller? Voilà, ce tout petit exercice, un détour par la pleine conscience, et l'idée, c'est pas de renoncer à agir sur le réel, sur ma souffrance, sur les situations, c'est juste de choisir entre répondre à ce que je vis ou y réagir automatiquement. C'est ma liberté ou un conditionnement avec des comportements, des attitudes sans arrêt répétées, sans arrêt les mêmes.
Daniel Morin, comment vous sentez-vous ?
J'ai envie de me battre. Non, j'ai envie de me battre contre mes tendances à la violence, justement. Non, pas le contraire. Vous savez, Ali, vous avez un peu changé ma vie. Et vous, docteur Christophe André, vous avez fait de moi quelqu'un de meilleur. Vous et vos clochettes avez une grande influence sur moi. Et je vous remercie.
Fabienne Saintès.
Oui, alors moi, je retiendrai de cette émission que je médite aussi, donc en faisant mes longueurs de piscine, après tout. Et qu'il y a ce moment magique où paf, on passe dans autre chose. Et que ça prend, surtout.
Donc, merci beaucoup. Merci pour cette émission exceptionnelle.
Mais enfin, j'ai l'arrivée, on continue.
Merci beaucoup, Christophe André, pour cette émission exceptionnelle. D'accord. Merci, Corinne Isnard-Bagny. Je recommande la méditation de pleine conscience en Que sais-je. Merci à Colasimo d'être venu également. Demain, on se demande ce qu'il reste de la grande psychanalyste Françoise Dolto, disparue il y a 30 ans. Posez-nous toutes vos questions sur Dolto 01 45 24 7000.